Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. Dernière ligne droite pour Marine Le Pen qui le dit très clairement. Je souhaite gagner cette fois-ci. L'Info c'est clair est intitulé Marine Le Pen à qui tout double. Nos invités, Claude Veil, vous êtes chroniqueur politique, Alix Bouyaguet, journaliste politique à France Télévisions, et Aurore Gorius, journaliste au site d'information lesjours.fr. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, on commence par Emmanuel Macron, qui était en meeting ce week-end à Marseille, donc sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, dont il essaye de convaincre les électeurs de voter pour lui. Sujet de Christelle Méral avec Guillaume Daret et Georges Pinol.
Emmanuel Macron est venu à Marseille avec une idée précise. Séduire ceux qui ont voté pour Yannick Jadot et surtout pour Jean-Luc Mélenchon. Le président candidat reprend donc l'un des thèmes clés du chef de file des Insoumis, la planification écologique.
Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements. Tous les investissements, la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
À Marseille, les électeurs ont largement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, 31% des voix. Tenter de les convaincre, une main tendue validée par les partisans d'En Marche.
Aller chercher les voix, aller les chercher chez Mélenchon, aller les chercher chez les écologistes. Moi, j'ai été vraiment rassurée qu'ils disent qu'il allait mettre de l'écologie, encore de l'écologie, parce que c'est notre avenir. Il n'y avait pas assez d'écologie dans le programme.
Chercher de nouveaux électeurs pour devancer Marine Le Pen, qui l'accuse d'être climato-sceptique.
Ne sifflez pas l'extrême droite. Battez-la le 24 avril.
Alors Claude Veil, ce week-end, on entendait l'expression suivante, on disait c'est même pas des clins d'œil, c'est des gros sabots verts là que Emmanuel Macron fait à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon.
Le reportage était très bien fait, il disait à peu près tout, donc je vais le répéter dans mes mots. Comme le disait cette dame, c'est vrai que dans le programme tel qu'il a été annoncé il y a maintenant moins d'un mois, il y avait un déficit de ce côté-là, et c'est vrai que s'il veut conquérir, notamment dans la jeune génération, ceux pour qui le climat est la grande affaire du XXIe siècle, il est évident qu'il devait faire des gestes. Donc il a fait un discours qui était c'était son discours sur l'environnement. J'imagine qu'il va faire d'autres discours thématiques sur d'autres grands thèmes du débat national. Mais là, c'était son discours sur l'environnement, où il a posé à la fois un acte symbolique, le fait que le Premier ministre serait en même temps ministre, en gros, de la transition écologique, de l'environnement et de la lutte contre les règlements climatiques, et puis un certain nombre de mesures beaucoup plus techniques sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. Mais surtout, ce qui était important pour lui, je crois, c'est de casser l'image, si je peux me permettre, très injuste qu'ont essayé de lui coller dans le passé, notamment les écologistes, avec le fameux procès où
la Convention citoyenne,
il y a quand même l'immense majorité des mesures de la Convention citoyenne qui ont été mises en œuvre. Il y a eu ce fameux procès où l'État français a été condamné pour inaction climatique, pour carence, pour ne pas avoir réussi à atteindre ses objectifs en matière de baisse de CO2. Pour la période 2015-2018, qui est couramment présentée comme Macron a été condamné. Non, Macron n'a pas été condamné. L'État a été condamné pour la période 2015-2018, qui ne coïncide pas avec son quinquennat. Bref, il avait clairement sur ce terrain-là un déficit d'engagement et de crédibilité. C'est ça qu'il a essayé de compenser.
Alors, c'est un virage à gauche toute. Est-ce que d'ailleurs, ce à gauche toute, alors si on parle d'écologie, on parle du voile et du féminisme, est-ce qu'il y a un risque de perdre, pour le coup, les électeurs de droite qui diraient « Bon, bah, Macron, il penche tellement à gauche que moi, dimanche prochain, je crois que je vais aller à la pêche. »
Oui, c'est vrai que c'est un grand écart et il ne faut pas faire de claquage hein, en gérant ces deux pôles-là. Sur l'écologie, je trouve quand même que il l'a surligné, c'est un peu lourd. c'est un peu gros comme ficelle. Et je suis pas convaincue que ce soit très performant du côté de ceux qui votent écolo.
Ça fait un peu tambouille électoraliste.
Ouais, ça fait quand même très très électoraliste, très clientéliste. On a ciblé sur le pouvoir d'achat la semaine dernière les Jean-Luc Mélenchon. Là, on s'attaque à l'écologie, c'est-à-dire qu'on démonte méthodiquement toutes les tranches.
À 8 jours, il vaut mieux faire gros. À 8 jours du scrutin.
Oui, il vaut mieux faire gros, mais enfin, on peut aussi faire un peu subtil. Et c'est vrai que pendant cinq ans, c'est vrai que cette convention citoyenne sur le climat, elle n'a pas non plus porté. Il avait dit qu'il en reprendrait la totalité. Enfin bref, il avait des jokers qui sont passés de 1, 2, 3, 4. Enfin, il y a eu beaucoup de jokers. Donc, on ne peut pas dire que...
Du coup, on en a retenu les renoncements plutôt que les avancées.
Exactement. Ça n'a pas été quelque chose de très concluant. Après, sur l'écologie, il a en même temps raison d'axer là-dessus, raison pour les électeurs, mais raison aussi parce qu'il veut en faire un point de clivage avec Marine Le Pen. Elle, notamment sur les éoliennes, ils sont tous les deux pour le nucléaire, pour poursuivre le nucléaire, mais en revanche, sur les énergies renouvelables, lui, il a une volonté d'installer une cinquantaine de parcs en mer éolien d'ici 2050. Elle veut toutes les démanteler. Et donc, c'est très important pour lui d'adresser un signal clair par rapport à Marine Le Pen.
En plus, si je peux me mettre dans une confusion totale, parce que dans ce week-end, on a entendu ces lieutenants dire on démonte pas, on n'y comprend plus rien.
Vous parlez de Marine Le Pen, là.
Oui, des éoliennes.
En tous les cas, Aurore Gorius, on a eu un président, on lui avait reproché avant le premier tour d'être en surplomb, de ne parler que de l'Ukraine, de ne pas intervenir, en tous les cas, de ne pas faire campagne. Là, il va au charbon. Il est même, comme on dit, à portée de baffe. Hein. Il se fait parfois alpaguer sur les retraites, on l'a vu.
Il est totalement obligé d'aller vraiment dans le détail de son projet, puisque effectivement, d'abord, il y a eu une campagne qui... On n'a pas parlé des programmes, on a très peu parlé des idées, qui est passée sous les radars, pour les raisons que vous avez rappelées, notamment l'Ukraine et le Covid, etc. Et puis parce que lui est parti très tard en campagne. Et c'est quelque chose qui a fait un peu vaciller son camp avant le premier tour, en disant, est-ce qu'on est parti trop tard? Est-ce qu'on n'aurait pas dû descendre un peu plus tôt dans l'arène? Là, il est obligé de le faire, puisqu'il est obligé d'aller chercher des voix. Même s'il est en avance, on sait qu'il y a une abstention potentiellement qui peut être très forte. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de votes blancs, beaucoup d'abstention. Il peut y avoir, on en reparlera sûrement, des reports assez importants du côté des voix qui sont portées sur Jean-Luc Mélenchon vers Marine Le Pen. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Il est obligé de rentrer dans les détails. Et sur l'environnement, c'est d'autant plus vrai que pendant son mandat, quand même, il y a eu quelques renoncements. Il y a eu des beaux discours, des grands discours sur l'environnement. Emmanuel Macron a montré qu'il avait pris conscience. En même temps, sur les glyphosates, il y a eu du recul. Il y a eu vous l'avez rappelé, le grand débat qui n'a pas donné lieu à beaucoup de choses très concrètes. Là, il a été obligé de faire des annonces un peu fortes, qui effectivement se voient. On voit les coutures, mais c'était une obligation. Et finalement, ce débat, cette campagne d'entre-deux tours, commence à devenir un peu intéressante. On parlait des éoliennes. C'est intéressant de voir que on a Marine Le Pen. On a vraiment le clivage. On a Marine Le Pen qui va vers des électeurs du milieu plutôt ruraux, qui est son électorat un peu socle, et qui leur dit bah oui, les éoliennes vous gênent, on va démanteler les éoliennes terrestres.
Mais ça peut être très populaire, ça. On sait que les éoliennes sont très critiquées.
Mais c'est une aberration économique. Tout ça a été financé à grands coups de dizaines de milliards d'euros depuis 20 ans par l'État français. Si on démantèle, ça appartient à des entreprises privées. Il faudra payer des indemnisations aux entreprises privées à qui on demande de démanteler. Donc l'État devra repayer pour démanteler. Et ça coûtera des dizaines de millions d'euros.
Il peut y avoir une opposition entre les élites parisiennes qui disent si, on va vous mettre des éoliennes, et puis les gens qui subissent et qui en disent bah, moi, la vue de mon enfance, de ma ferme, maintenant il y a une éolienne.
Les éoliennes terrestres, clairement, ça peut poser des problèmes localement. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a pris conscience apparemment aussi, puisqu'il dit on arrête, il a levé le pied sur les éoliennes terrestres, il parle d'éoliennes en mer, offshore. Donc, effectivement, il y a sans doute un souci, mais elle a un programme extrêmement radical d'éradication des éoliennes et de démantèlement, qui est une aberration économique, alors qu'on sait bien qu'en plus, dans le mix énergétique, l'éolien joue un rôle, même si, évidemment, ça ne peut pas être la seule solution, alors en plus où il y a une augmentation des prix du gaz, et donc il faut trouver d'autres sources d'énergie.
Alors justement, on va parler de la campagne de Marine Le Pen, qui était en déplacement en fin de semaine dans le Vaucluse, et ce n'est pas les éoliennes qui se sont rappelées à son bon souvenir, c'est la question du voile. Vous voyez ce sujet de Julien Lény, Valérie Lerouge et Martin Lavieille.
À son arrivée ce matin sur le marché de Pertuis, dans le Vaucluse, Marine Le Pen le sait, le second tour pour supplanter Emmanuel Macron sera serré.
Bonjour.
Un impératif pour y parvenir, convaincre une partie des électeurs de gauche de voter pour elle. Par exemple, en défendant les retraites.
J'y suis terriblement attaché. Et donc, je préserverai notre système de retraite. En revanche, je suis navré de dire que ceux qui veulent qu'on repousse la retraite jusqu'à 65 ans, c'est déraisonnable. Les gens, ils n'y arriveront pas.
Pourtant, très vite, dans un département où elle est arrivée largement en tête au premier tour, la candidate du RN est ramenée à ses thèmes de prédilection.
Parce que le voile, c'est un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision radicale de
vie. Ah non,
c'est pas vrai. Vous non.
Avec en arrière-plan, face à face, militant lepéniste et activiste antifasciste.
Ça me confirme dans l'idée que je peux gagner cette élection présidentielle, car la brutalité qui est exprimée à mon égard est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection.
Alors la question du voile, Claude Veil, ça peut être un handicap pour récupérer cet électorat mélenchoniste. Sondage, je termine, pour La Croix, réalisé par l'IFOP, 69% des électeurs de confession musulmane ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour.
Alors c'est compliqué cette histoire, parce que si on parle cyniquement de pure arithmétique électorale, l'interdiction du voile est populaire. J'ajoute hélas. Mais lorsqu'on engage le débat et la discussion, il faut en voir les implications. Jamais aucune démocratie au monde n'a légiféré sur une tenue vestimentaire. En France, comme dans tous les pays du monde aujourd'hui, on a le droit de s'habiller comme on le souhaite, à condition de ne pas nuire à autrui. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça ouvrirait une faille symbolique très importante dans notre état de droit. J'ajoute que, de mon point de vue, cette mesure serait non seulement stigmatisante et discriminante, mais totalement anticonstitutionnelle. Ça n'a aucune chance de passer, parce que le Conseil constitutionnel considère qu'on a le droit de mettre des limitations à la liberté lorsqu'elles sont proportionnées, justifiées et légitimes. Ce qui, dans ce cas, mériterait d'être démontré, à mon avis, ça ne l'est pas du tout. Mais surtout, c'est une mesure inapplicable, évidemment, parce qu'on ne va pas mobiliser la police de France pour courir après les centaines de milliers de femmes, par exemple dans le Vaucluse, qui portent un foulard sur la tête. Et non seulement c'est inapplicable, mais c'est de nature à mettre le feu à la plaine, quand même, parce qu'il faut savoir que pour ces populations, qui ne sont pas tous islamistes, dont l'immense majorité n'est pas du tout islamiste, cet usage vestimentaire est considéré maintenant comme un droit, que ça fait partie de leur mode de vie, et que si on prétendait à enlever le foulard à ces femmes de force par la loi ou par une amende, ça se passerait très mal. Et donc, ce qui est en jeu aussi, c'est la paix civile en France. Ouais. Marine Le Pen essaie de donner une image apaisante. Moi, je peux vous dire, parce que j'habite les Bouches-du-Rhône, que si vous interdisez le port du foulard à toutes les femmes, vous allez avoir des troubles sociaux très importants. Donc, c'est ça qu'elle essaye aujourd'hui. Dans un demi-pas en retrait, j'ai pas très bien compris.
Hier, Jordan Bardella a dit oui, voilà. on la déciderait, mais pas dès le lendemain de la victoire.
Mais ça, on va l'interdire, mais pas au plus de 70 ans. Enfin, j'ai entendu des choses extravagantes. Je pense qu'il faut. Et ce cas-là est très très intéressant parce que si j'élargis un tout petit peu la focale une seconde, je suis quand même très très sidéré. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'on a peu parlé de programme jusqu'ici. Je suis quand même très très sidéré que un très grand nombre de Français, et malheureusement de médias et de journalistes, aient découvert le programme de Marine Le Pen le 11 avril.
C'est-à-dire au lendemain du premier tour. Alors, Aurore Gorius, est-ce que c'est révélateur, ça, justement? On commence à s'intéresser au programme de Marine Le Pen.
Mais oui, c'est révélateur d'une non-campagne qui s'est déroulée jusqu'au premier tour, malheureusement, et qui en plus a été polluée, on peut dire ça comme ça, par des thématiques très radicales venues du camp Zemmour, et qui ont été beaucoup commentées, et finalement, le reste est passé sous les radars. Mais l'interdiction du voile dans l'espace public, qui vient d'être... ça vient d'être dit, et ça poserait d'énormes problèmes, notamment en matière de paix civile. C'est représentatif d'un programme de Marine Le Pen qui est extrêmement brutal. Elle renvoie la brutalité vers Emmanuel Macron. Elle dit Emmanuel Macron a divisé les Français pendant son mandat. Elle-même a un programme très brutal. Et le voile en est l'un des symboles, mais pas seulement, sur le plan social aussi. Le programme de Marine Le Pen, ça consiste à dire on retire les étrangers des logements sociaux, on enlève les aides sociales aux familles qui n'ont pas un parent dans le foyer qui a une carte d'identité française. Il y a tout un tas de mesures vraiment de ségrégation ethnique, raciale, qui sont inscrites dans son programme et qu'on a très peu commentées et qui en plus sont passées à l'as avec une image, et ce n'est que de la communication, qu'elle a essayé de ripolliner, comme on dit, de dédiaboliser, et ça a très bien fonctionné, puisqu'on n'est pas allé dans le détail des programmes. Mais cette interdiction du voile, elle va avec, qui est prônée, elle va avec tout un tas de mesures de ségrégation qui sont inscrites dans son programme, notamment au niveau social, au niveau des droits accordés aux étrangers, affaiblissement du droit du sol, suppression du droit d'asile, tout ça est dans le programme. Et donc, c'est maintenant qu'il faut en parler. Parce que c'est maintenant que, voilà, elle est aux portes de l'Élysée. C'est maintenant qu'il faut le rappeler. Et c'est vrai que ça n'a pas été fait avant le premier tour, ou en tout cas pas suffisamment.
Alix Bouyaguet, du coup, cette campagne, cet entre-deux tours, il est très différent pour Marine Le Pen de la campagne d'avant premier tour, où au fond, le méchant, l'épouvantail, c'était Éric Zemmour. Là, il n'est plus là, Éric Zemmour.
Oui, c'est sûr que c'est lui qui prenait la foudre. Et c'est vrai qu'elle lui a laissé les outrances. Et elle n'est pas allée sur ses propres valeurs, ses propres mesures, notamment tout ce qui est sécurité et immigration, parce que finalement, elle est partie du principe que les Français savaient effectivement de quoi il en sortait, et puis surtout, lui-même, elle lui a laissé son fonds de commerce, le côté plus sulfureux. C'est vrai que cette histoire de voile, d'interdiction de l'espace public, elle a été obligée de faire un petit pas de deux, c'est-à-dire à la fois, faut pas non plus qu'elle le sorte complètement de son programme, parce que c'est aussi un marqueur pour ceux qui ont envie de voter pour elle, mais en même temps, effectivement, il faut tendre la main à un électorat plus populaire, de gauche.
Il y a un peu d'électoralisme aussi.
Pour lequel, oui, il y a de l'électoralisme. Elle fait comme Emmanuel Macron. Chacun, en fait, ils se partagent tous les deux les 7 millions de voix de Jean-Luc Mélenchon, notamment. Après, pour Marine Le Pen, c'est vrai qu'il faut se poser la question, est-ce qu'elle est, et c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, est-ce qu'elle est de l'extrême droite? Donc, comment est-ce qu'on sait si quelqu'un est d'extrême droite ou pas? Alors, on a des marqueurs, hein, des marqueurs d'extrême droite. La discrimination entre citoyens, ça, c'est un marqueur d'extrême droite. La recherche permanente d'un bouc émissaire au sein de la société française, c'est un marqueur d'extrême droite. Le référendum, par exemple, comme mode de gouvernance, et non pas comme consultation exceptionnelle de temps à autre, c'est aussi un marqueur de l'extrême droite. Mais elle a tous ces constituants-là, mais elle essaye effectivement de ripolliner et de donner finalement un visage beaucoup plus rassurant.
Alors, les électeurs mélenchonistes, comment vont-ils voter? Regardez, nous sommes allés dans un bastion du vote Mélenchon à Marseille et à Avignon. Ce sont deux villes où Jean-Luc Mélenchon est apparu en tête. Vous allez voir, c'est très intéressant. Reportage de Béatrice Jolot, Anne Bourse et Caroline Motte.
Marseille, Avignon et un point commun, ces deux villes ont placé Jean-Luc Mélenchon largement en tête du premier tour de la présidentielle. Mais aujourd'hui, les électeurs de la France insoumise se demandent pour qui voter au second tour. Certains reconnaissent à demi-mot que leur bulletin pourrait aller vers Marine Le Pen.
On a eu 5 ans de Macron, si on pouvait essayer autre chose. Peut-être.
Je crois pas Marine Le Pen. On va essayer le changement. Parce que niveau salaire, les taxes, pour les Français, les jeunes, donc c'est plus ça.
D'autres ont tranché, ils feront barrage à Marine Le Pen.
Je pense que ça va voter Macron quand même, genre par lucidité et par conviction aussi du fait de ne pas laisser passer l'extrême droite.
Est-ce que vous savez ce que vous allez faire au deuxième tour?
Oui, Macron, ben oui. Oui.
C'est clair pour vous?
Ah bah ben oui, on ne veut pas de Le Pen.
Mais à 9 jours du second tour, une majorité de mélenchonistes se sent encore perdue.
Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal de chaque côté, mais il y a des choses aussi qui me dérangent de chaque côté. Donc le problème, c'est que il faut choisir une personne et voilà. Donc je suis pas assez convaincue pour mon choix, quoi.
Moi, je me retrouve pas du tout dans ce second tour, en fait. Je comprends pas et. Et j'ai absolument, je n'ai pas envie de voter pour le moins pire ou voilà.
Dans le local de la France Insoumise à Marseille, ces militants réfléchissent à voter Emmanuel Macron, mais ils se disent difficiles à convaincre.
Son programme économique, social, écologique ne fait pas la majorité dans ce pays. S'il ne l'entend pas, j'ai très très peur du résultat au deuxième tour.
Reste une inconnue qui risque de peser dans le scrutin, l'abstention.
Claude Veil, on a entendu le monsieur au début de ce reportage. On a eu 5 ans de Macron. Si on pouvait essayer autre chose.
Ah ben, ça, c'est le rêve de toute élection, qu'elle permette de régler tous les problèmes par enchantement. Est-ce que l'électorat Mélenchon va faire la différence? Moi, je suis quand même frappé par une relative stabilité. Cette question, elle est sondée depuis des semaines et des semaines, et on a toujours à peu près les mêmes pourcentages, c'est-à-dire 30% ou un peu plus qui voteraient Macron. mais en fait contre Le Pen. Ils n'aiment pas Macron. S'ils aimaient Macron, ils n'auraient pas voté Mélenchon au premier tour. Environ 30% qui s'abstiennent et un petit 30% qui sont prêts à sauter le pas et à voter pour Marine Le Pen. Ce 30% a peut-être légèrement tendance à diminuer, mais c'est pas très spectaculaire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous disiez tout à l'heure, avant le premier tour, c'était le méchant, c'était...
Éric Zemmour.
Non, avant le premier tour, le méchant, rappelez-vous, C'était
qui alors ?
C'était Emmanuel Macron. Les 11 autres candidats ont fait campagne contre Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'électeurs, je comprends, sont un peu déstabilisés. Souvenez-vous par exemple que Mme Pécresse a fait campagne exclusivement contre Emmanuel Macron. Et la gauche a tapé sur Macron pendant 5 ans avec une... Donc c'est un tout petit peu compliqué pour les électeurs, je me mets à leur place. Et certains l'expriment de façon très littéraire, comme Annie Ernaux par exemple dans un texte récent. C'est un tout petit peu compliqué quand pendant 5 ans, vous avez été abreuvé de slogans contre l'ultralibéralisme macronien, contre la dérive totalitaire. Mélenchon a écrit ça, la dérive totalitaire de Macron. Tout à coup, on vous dit, ah ben non, mais attendez, on s'est mal compris. En fait, Macron, c'est mieux que Le Pen. Donc, je comprends que les électeurs, il leur faille quand même quelques jours pour assimiler ce changement. Au bout du compte... C'est vrai que ceux qui vont faire la décision, mais je pense que ça va s'équilibrer en réalité, c'est ceux qui détestent Macron au point de voter pour Le Pen, ceux qui détestent Le Pen au point de voter pour Macron. Mmh.
Alix Bouyaguer,
oui. En fait, c'est ça. Ils sont chacun dans une stratégie du rejet, le rejet personnel. Lui, Emmanuel Macron, il diabolise Marine Le Pen en la renvoyant à l'extrême droite, donc soit en parlant du Front National et non du Rassemblement National, soit en parlant de l'extrême droite. Et elle essaye de faire de cette élection un référendum anti-Macron, anti-retour au pouvoir. Donc, ils surfent chacun sur la même chose. L'anti-l'autre, ce qui n'est pas toujours très mobilisant pour les électeurs. Du côté de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même intéressant, c'est que si on se souvient, en 2017, 7% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon avaient voté pour Marine Le Pen. Là, effectivement, dans les enquêtes d'opinion... certaines le mettent à 18-20, 30 pour d'autres enquêtes d'opinion. Donc ça veut dire que ce score a doublé, voire triplé par rapport à 2017. Ça dit aussi quelque chose de la manière dont Marine Le Pen a fait campagne, effectivement, sur les sujets plus sociaux, le pouvoir d'achat, et comment elle capitalise un petit peu aujourd'hui là-dessus.
Et la puissance de l'antimacronisme. Alors, il y a un mot sur les abstentionnistes. Ça s'est mis en... L'abstentionnisme s'est mis en scène de façon spectaculaire, je dirais, à travers l'occupation de la Sorbonne par des jeunes qui...
On va y aller à la Sorbonne.
Le mot d'ordre était ni Macron ni Le Pen. Mais je pense qu'il faut qu'ils prennent bien conscience que ce n'est pas ni Macron ni Le Pen, c'est Macron ou Le Pen.
On ne peut pas avoir personne. Aurore Gorius, en tous les cas, vous le rappeliez, Alix Bouyaguer, le vote Le Pen monte chez les mélenchonistes. Et les abstentionnistes aussi sont très nombreux. C'est Le Monde qui titrait ce week-end, Front Républicain a un barrage devenu... fragile, on entendait des gens dire « bon non, moi je ne choisis pas ». Au fond, alors qu'en 2002, il y a 20 ans, on se souvient des manifestations monstres qu'il y avait dans toute la France. L'époque a changé. Hein.
L'époque a beaucoup changé en 20 ans, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, le barrage républicain, le front républicain, c'est...
C'est compliqué à manier comme outil. Ça voudrait dire que la moitié de la population serait... hors République.
C'est compliqué à manier aussi à cause de la répétition, c'est-à-dire qu'on a déjà appelé à faire barrage donc en 2002, a appelé à faire barrage en 2017. Jean-Luc Mélenchon a appelé à faire barrage dès le premier tour, donc il y a déjà des mélenchonistes qui sont ou des gens de gauche qui ont voté Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage à Marine Le Pen dès le premier tour, et là il faut aller refaire barrage. Donc à force d'utiliser cet argument-là, il s'use. Ça, c'est une réalité. Après, il faudra voir ce que ça donne vraiment dans les urnes, parce que tout dépend de ce qu'on sonde. C'est-à-dire qu'il y a une consultation là, des insoumis qui donne, ça a été rappelé, un tiers d'abstentionnistes, un tiers de gens qui pourraient voter blanc, un tiers de gens qui pourraient voter, qui pourraient voter Emmanuel Macron. Mais ce sont les militants de la France insoumise qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Et puis on n'aura pas proposé l'option Le Pen.
Et l'option Le Pen n'était pas proposée. Et donc ce sont 200 000 personnes qui sont des militants purs et durs de la France insoumise. En 2017, la consultation avait donné peu ou prou les mêmes résultats, mais il y avait quand même 50% des votants pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui s'étaient reportés sur Emmanuel Macron au deuxième tour. Sachant que là, dans le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, 22%, il y en a à peu près une bonne moitié qui ont voté barrage ou qui ont voté utile. Donc ces reports de voix sont très très compliqués à mesurer. Et la seule chose qu'on sait, effectivement, c'est que le front républicain s'est usé, qu'il n'y a plus d'automaticité, et qu'en plus, vous l'avez rappelé, comme il y a un président sortant,
ouais,
il est l'homme du passif, il doit assumer son bilan, et c'est souvent très dur à défendre pour aller demander de faire barrage.
Entre la consultation militante et les électeurs, vous avez quand même un écart important, puisque chez les militants qui ont été consultés, c'est en gros deux tiers abstention ou vote blanc.
Ils n'avaient pas le choix,
c'est à peu près deux tiers abstention ou vote blanc, alors que chez les électeurs sondés, c'est un tiers abstention au vote blanc.
En tous les cas, le barrage, le Front républicain, ça devient compliqué, vous le disiez. Et pourtant, les tribunes se multiplient. On a eu d'abord les deux leaders syndicaux qui ont appelé à voter Macron. On a eu la semaine dernière des sportifs qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. On a les deux anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui ont appelé à voter Macron. Et on a eu ce week-end encore des artistes, 500 artistes, qui ont appelé à voter Macron. Et bien écoutez, cette avalanche de tribunes en faveur d'Emmanuel Macron, elles sont contre-productives. On écoute, selon Jordan Bardella, soutien évidemment de Marine Le Pen. Il s'en est expliqué hier sur Europe 1. On l'écoute.
C'est une caste, c'est un système. Que des artistes qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, dont une grande partie des gens qui signent ces tribunes payent leurs impôts à l'étranger, qui n'ont aucun problème de sécurité compte tenu des quartiers extrêmement privilégiés où ils habitent, viennent donner des leçons au peuple français, qui lui a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et qui est encerclé aujourd'hui par la violence sur chaque mètre carré du territoire national, je trouve ça profondément indécent.
Il y a des sportifs, il y a des organisations syndicales, il n'y a pas que une caste qui gagne beaucoup d'argent.
Deux patrons d'organisations syndicales, le patron de la CFDT et le patron de la CGT, qui, c'est très amusant d'ailleurs de les voir s'opposer à la retraite à 65 ans et de venir soutenir Emmanuel Macron, mais croyez-moi, ce n'est pas ce que pense leur base. Parce que voyez-vous, quand on regarde les résultats du premier tour, Marine Le Pen est la candidate qui a été plébiscitée par les ouvriers. Elle est arrivée avec près de 35% en tête chez les ouvriers, très largement devant Jean-Luc Mélenchon et devant Emmanuel Macron. Donc nous avons le peuple français avec nous.
Claude Veil, est-ce qu'elles sont efficaces ces tribunes? Donc la dernière en date, c'est celle de ces 500 artistes. Est-ce que ça ne fait pas Marine Le Pen martyr et Emmanuel Macron candidat de l'établissement, comme aurait dit son père?
Quel est l'effet produit au bout du compte? Je suis incapable de vous répondre à ça. Le danger, évidemment, serait, ce qui essaie de jouer habilement Jordan Bardella, que Emmanuel Macron apparaisse comme le candidat des élites, des gens d'en haut, des gens qui n'ont pas de problème. Or, c'est déjà l'image qu'il a d'être le candidat de la France qui va bien. Et en même temps, je dirais, ça crée quand même un climat. Ça crée quand même un climat et ça rappelle des choses. Ça rappelle que le vote pour le Rassemblement national, c'est pas n'importe quel vote. On discute beaucoup de savoir si le Front républicain tient encore. Il ne s'agit pas vraiment d'un Front républicain parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas mettre hors la République 50% ou 47% des électeurs. Mais en même temps, il y a cette idée que le Rassemblement national, ce n'est pas un parti tout à fait comme les autres. Et lorsqu'on regarde son programme, ce n'est pas du tout un parti comme les autres. C'est la question de la tentation plébiscitaire a été évoquée. Un parti qui prétend, comme les régimes illibéraux d'Europe centrale, gouverner par référendum pour contourner le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire pour contourner le contrôle de constitutionnalité des lois. Ce n'est pas anodin. Un parti qui propose encore un renversement des alliances de la France, s'éloigner des États-Unis, rompre notre partenariat privilégié avec l'Allemagne, sortir de l'OTAN pour se rapprocher de la Russie en ce moment, c'est pas tout à fait un parti comme les autres, etc. On pourrait continuer longtemps. Et donc, le chorus qui se crée autour de gens, en effet, qui n'ont pas de problème de fin de mois et dont on peut même dire qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre dans la vie, je trouve que ça oblige quand même à une réflexion, voilà.
Aurore Gorius, est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même l'impression que ça donne, c'est qu'autrefois le second tour c'était un débat droite-gauche. Maintenant, on a l'impression, où Jordan Bardella a l'air de décrire, au fond, on a le candidat des élites versus le candidat du peuple.
Ben, on est en pleine,
France d'en haut, la France d'en bas.
On est en pleine rhétorique populiste. Hein. C'est le positionnement de Marine Le Pen, c'est le populisme depuis toujours, c'est les élites, le peuple contre les élites, une instrumentalisation du peuple pour gagner le pouvoir. C'était le programme et le positionnement de Pierre Poujade dans les années 50, qui a été repris par son père Jean-Marie Le Pen au Front National, qui est repris par Marine Le Pen à la tête du Front National, puis du Rassemblement National. Donc on est en plein dans ce positionnement-là. Et c'est une fracture qui s'est bien évidemment accentuée ces dernières années, notamment parce que les partis traditionnels aussi se sont largement effondrés. Donc on est aujourd'hui non plus dans un clivage droite-gauche, mais dans un clivage le peuple contre les élites, et la rhétorique populiste a gagné du terrain. Et là, du coup, dans ce climat-là, évidemment, des partis comme celui de Marine Le Pen boivent du petit lait. C'est assez facile de renverser la table en disant « le peuple doit voter pour nous, quand le peuple vote, le peuple gagne ». C'est le grand slogan du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui. Et en plus, Emmanuel Macron, pendant 5 ans, avec son bilan, a pu donner aussi des gages, parfois, d'être le candidat des élites, avec parfois une forme d'arrogance, des erreurs de communication, des phrases malheureuses, qui ont pu exprimer parfois un peu de mépris à l'égard de certaines catégories de population. Donc, elles s'en donnent à cœur joie, et c'est clairement une rhétorique qui peut fonctionner jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on regarde vraiment les propositions de ce parti, qui pose énormément de problèmes, comme on l'a dit depuis le début de l'émission. Mais par contre, ce sera sans doute aussi un positionnement qu'elle va adopter dans le débat d'entre-deux-tours mercredi soir. Elle va l'attaquer là-dessus, bien sûr.
On parlait tout à l'heure de 2002 et les manifestations il y a 20 ans. La jeunesse était dans la rue. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est beaucoup plus en quête de radicalité et elle a un vote beaucoup plus décomplexé vis-à-vis des candidats de l'extrême. Écoutez, regardez ce reportage, tout un symbole, à Colombey, les deux églises, le village du général de Gaulle, où Marine Le Pen est arrivée ex aequo avec le vote Macron. Et vous allez voir qu'il y a un clivage générationnel en matière de vote. Reportage de Claire Vérov et Alexandre Raymond.
Une semaine de campagne pleine d'enjeux.
Bonjour.
Après des résultats inédits dans le village du général.
Alors sont arrivés en tête M. Emmanuel Macron avec 69 voix et Mme Marine Le Pen avec 69 voix ex aequo.
C'est une première.
C'est une première, tout à fait.
L'extrême droite en tête ex aequo, le parti Les Républicains à 10%. De mémoire de gaulliste, on n'avait jamais vu ça.
J'en reviens pas. Si le général était là, il dirait les Français sont des veaux.
Gérard Natali et Yves Consigny ont porté le cercueil du général de Gaulle. Ils ne peuvent pas croire que le Rassemblement national, historiquement anti-gaulliste, obtienne tant de voix aujourd'hui.
Je suis malade. Comme Yves, il en est malade. Comprends pas.
Dans les nouveaux quartiers de Colombey, de nombreux habitants se disent prêts à écouter les arguments du Rassemblement national. En particulier chez les jeunes.
Nous, les jeunes, ça ne nous a pas choqués. Je pense que les anciens que vous avez, eux, même le général, il s'est retourné dans la tombe.
Plusieurs de ces jeunes ont voté RN dès le premier tour. Pour eux, le gaullisme, c'est aujourd'hui plus une manne touristique qu'une boussole politique.
Bon, à Cercy, oui, on est à Colombey. On est souvent relié au général de Gaulle. Mais mis à part le mémorial, les touristes, c'est tout le côté qu'on voit. Quoi.
Alix Bouyagé, ça, c'est ce qui est apparu, c'est que Emmanuel Macron, c'était le vote des retraités. Alors que là, on a une jeunesse qui est en quête de radicalité, qui a envie, comme on dit, qui n'a pas peur de renverser la table.
Oui, 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 c'est pour ça que je pense que ces tribunes d'artistes, de sportifs, c'est vrai, déconnectés aussi de la vie de ces gens-là, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, en 2022, ce soit très bénéfique pour Emmanuel Macron, d'autant que Marine Le Pen, elle appuie là où ça fait mal, effectivement, sur sa supposée... son pouvoir jupitérien, son arrogance, son mépris. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une sortie, elle n'a pas une interview sans qu'elle surligne ça. Hier encore, je l'entendais parler de la brutalité, c'est-à-dire que d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on n'est plus en 2002. On n'est plus en 2002 et que je pense que les gens, maintenant, ont peut-être envie que ça change.
La jeunesse est extraordinairement clivée, moi, c'est ça.
Oui.
Parce qu'en effet, il y a une grande partie de la jeunesse, et notamment des 25-35 ans, qui votent Marine Le Pen.
Ou Mélenchon.
Ou alors, vous avez le...
Qui peuvent passer de l'un à l'autre, d'ailleurs.
Le style Sorbonne, c'est-à-dire ni Mélenchon, ni
Le Pen. Je vais citer Hugo, 24 ans, parisien.
Macron, ni Le Pen.
Il parle de son père. Il dit, eux, ils veulent juste protéger leur patrimoine. Moi, je suis préoccupé par l'environnement et la justice sociale.
Et alors du coup, on en a vu, c'est assez original, on n'avait pas connu ça en France encore, on a vu monter aussi bien chez les extrêmes gauches et chez les écolos radicaux que à l'extrême droite, un courant anti-vieux sur le thème « c'est quand même scandaleux que les plus de 65 ans nous volent l'élection.
Nous,
on a même vu ça, nous volent l'élection, ce qui est un raisonnement quand même un tout petit peu bizarre quand on admet le principe du suffrage universel. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de générationnel, on voyait très bien dans le reportage sur Colombey. En 2002, vous en parliez, c'était la jeunesse qui était dans la rue, qui était la plus mobilisée contre le père Le Pen, avec un slogan qui était « La jeunesse emmerde le Front National ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, objectivement, la vieillesse emmerde le Rassemblement National. Parce que si les plus de 65 ans ne votaient pas, le résultat second tour serait beaucoup plus serré qu'il n'apparaît.
Et alors, on entend des choses comme la voix des jeunes devrait compter double parce que c'est eux qui subiront le réchauffement climatique, une jeunesse qui conteste le résultat du second tour. La semaine dernière, on a vu la Sorbonne occupée par des jeunes. Vous allez écouter leur argument, écouter un argument qui commence à remettre en cause l'idée, l'efficacité, l'idée du vote, quoi, tout bêtement, du bulletin de vote. Je vous propose de revoir ce sujet vendredi dernier de Jean-Christophe Batteria. Alors, c'était juste au lendemain de l'évacuation de la Sorbonne. On regarde.
Peu après minuit, la trentaine d'étudiants qui occupaient encore la Sorbonne quittent volontairement l'université sous les hurrahs de leurs camarades, ceux qui avaient été évacués sous escorte policière plus tôt dans la soirée. L'occupation aura finalement duré 30 heures.
Nous, on aimerait faire entendre une voix de la jeunesse, une voix qui se préoccupe de son avenir, du climat, des inégalités. Et ce n'est pas du tout le second tour.
Et ce n'est pas les programmes qui nous respectent beaucoup, nos étudiants. On est un peu oubliés, c'est pour ça qu'on a besoin de faire entendre nos voix.
Il s'agirait d'arrêter en fait, de penser que la démocratie, ça se fait seulement dans les urnes. Et on a le droit d'être insatisfait par les résultats de cette élection.
Alors, on est insatisfait par le résultat de ces élections. Il faut arrêter de penser que la démocratie, ça s'exprime uniquement dans les urnes.
Mais ça reflète aussi une génération qui est très peu politisée au sens engagement dans des partis politiques. Les partis politiques, les mouvements de jeunes des partis politiques, sont affaiblis de façon générale, les mouvements de jeunes aussi. Et c'est une jeunesse qui s'engage dans des associations, dans des causes.
Rébellion.
Des causes, voilà, des causes, notamment la cause climatique, des causes des ONG, des associations, qui est très engagée aussi dans des associations, effectivement, qui prônent l'égalité femmes-hommes. Voilà, vraiment, l'égalité est une cause vraiment prioritaire aux yeux de beaucoup, beaucoup de jeunes électeurs. Le problème, c'est que peu de partis arrivent à transformer ça en propositions concrètes, arrivent à fédérer aussi des mouvements qui canalisent ces demandes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on retrouve une contestation dans la rue. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut comprendre que la redite de ce scénario de 2017, choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour beaucoup de jeunes, c'est quand même un peu désespérant. Ça l'est pour des électeurs plus âgés aussi, mais c'est un choix qui n'a rien pour leur donner envie d'aller voter. Donc du coup, on est dans ce paradoxe d'une jeunesse. On a fait toute une série là-dessus sur lesjours.fr. On a vraiment suivi des jeunes, on les a suivis au long cours pendant toute la campagne. Ils sont nombreux à être engagés, mais pas dans des partis, pas en politique. Et ils ont du mal à considérer que c'est important d'aller voter. Et ils ont souvent du mal à considérer quand même qu'aller voter, c'est désigner des gens qui, ensuite, ont du pouvoir, font des arbitrages. Et ils ont un engagement politique qui passe plus par la bande, par les associations, les ONG, et parfois par des mobilisations aussi, effectivement, de rue. Et voilà, c'est une autre façon.
D'où un taux d'abstention énorme, ouais, qui porte à leur répondre, si vous n'êtes pas content des résultats du premier tour, il y a une solution de peser, c'est d'aller voter.
Ouais. Mais on a parlé tout à l'heure, Claude Veil, vous parliez des risques de désordre et de troubles en cas de victoire de Marine Le Pen. On voit que l'anti-macronisme qui s'est exprimé au travers des Gilets jaunes et qu'on entend là de façon quand même assez violente, il promet des lendemains difficiles, la rentrée en septembre.
Oui, c'est vrai qu'on parle de troisième tour social dès septembre. C'est vrai que c'est une possibilité. D'où l'intérêt pour Emmanuel Macron de faire ce qu'il a fait, ce qu'il avait peu fait avant le premier tour, c'est-à-dire de descendre aussi dans l'arène et de se mettre à portée de, alors je ne vais pas dire de baffe, mais d'engueulade, comme on dit, et d'entendre effectivement ces Français. Alors, il a joué le jeu, il n'est pas mauvais dans l'exercice, il a été bousculé à de nombreuses reprises, mais je pense que c'est essentiel
d'essayer de crever les abcès, même si 15 jours finalement pour le faire, c'est très très court. Et on voit déjà que Marine Le Pen, elle prépare quand même le terrain, justement, en accent sur cette brutalité, sur... voilà, elle prépare le terrain pour une rentrée compliquée, en sachant que lui-même s'est un peu tiré une balle dans le pied, parce que avant le premier tour, il a un petit peu balancé comme ça de haut sa réforme à 65 ans. C'est comme ça.
Sa conférence de presse de 4 heures, là.
Voilà, sa conférence de 4 heures d'une technicité où on retient rien, si ce n'est la retraite à 65 ans quasiment imposée à tous. Alors, il faut dire, on a eu 5 ans avant de concertation sur une réforme qui n'a pas abouti. Le RSA sous conditions d'activité, c'est les deux choses qu'on a retenues et c'est des choses qui étaient un petit peu imposées sans concertation. Donc, il y a eu un espèce de changement de pied un peu à la va-vite pour dire, non, finalement, on va discuter ensemble, tout ça n'est pas gravé dans le marbre, on va discuter. C'est un petit peu tard.
Ouais, c'est vrai que Claude Weil, il a l'air d'être conscient de ce risque d'adhésion de la population parce qu'il nous a promis au soir du premier tour une nouvelle façon de gouverner.
Oui, un gouverner autrement.
Alors, en écoutant, on voit pas très... Et ça veut dire quoi, gouverner en écoutant ?
Non, pour moi, ça reste très flou. Et on peut penser que ce sont des paroles verbales. Je ne sais pas. Le fait est que ça se traduit au moins une prise de conscience de ce que vous disiez, c'est-à-dire, et de ce que disaient d'ailleurs d'une façon les jeunes qu'on a vu interviewer tout à l'heure, c'est que la démocratie aujourd'hui ne se limite plus à l'élection et qu'il y a même une érosion du sentiment démocratique globalement. Quand j'étais jeune, on criait « élection piège à con », c'est un sondage, un slogan que beaucoup de jeunes aujourd'hui pourraient reprendre. Mais c'est vrai que le taux d'abstention d'une élection à l'autre ne cesse de progresser. Dans les élections locales, européennes, etc., c'est vertigineux. À la présidentielle, il y a encore une mobilisation, mais même là, le taux d'abstention monte parce que c'est vrai qu'il y a un détachement à l'égard du mécanisme électoral où les gens ont le sentiment que finalement, plus ça change, moins ça change. Et il y a parmi les slogans des jeunes, il y en a qui disaient « on en a marre d'élire tous les 5 ans le roi de France ». Je comprends bien ce sentiment-là. Et puis, il y a aussi la perte de sacralité de l'élection. Tant qu'on était dans un système gauche-droite, les choses étaient assez simples. La droite gagnait, la gauche attendait son tour, et puis on ne contestait pas le résultat des élections. On allait dans l'opposition, on se préparait, on écrivait des programmes, on faisait des colloques et des machins, mais on ne contestait pas fondamentalement le principe d'émotion de l'élection. Quand on est dans un clivage d'un nouveau type, peuple contre élite, là c'est complètement différent, parce que vous avez une ébullition permanente de la société qui n'entre pas justement dans le canal électoral. Et ça a commencé avec les Gilets jaunes, et ça va continuer. Le second quinquennat, et si Macron est réélu, sera évidemment très difficile, parce que ces formes de contestation polymorphes vont continuer à se manifester. Vous avez un certain nombre de gens qui annoncent déjà qu'ils descendent dans la rue dès le 25 avril ou au mois de septembre. Et puis, le rassemblement qui s'est fait autour d'Emmanuel Macron... Anti-Le Pen, par exemple la CGT, etc., ces gens-là ne vont pas cesser de mettre en avant leurs revendications. Donc les 53%, admettons par hypothèse, qu'obtiendrait Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire que 53% des Français vont dire « bon ben tout va bien maintenant, on est tranquille, on rentre chez nous ». Non, toutes les contestations... L'élection présidentielle ne joue plus, et c'est très compliqué pour de lire l'avenir, ne joue plus le rôle d'ardoise magique, de reset qu'il jouait avant. Tous les 5 ans ou tous les 7 ans, les Français allaient aux urnes, on oubliait tout et on repartait sur une page blanche. Eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de page blanche, il n'y a plus de reset, il n'y a plus d'ardoise magique. Et au lendemain d'élection, tous les problèmes qui ont éclaté ou qui ont été mis sous la table pendant l'élection reviennent en force.
Alors, le moment fort de cette semaine, ce sera le fameux débat de l'entre-deux-tours. Est-ce qu'il peut changer les choses ? Est-ce qu'il peut changer la donne de faire que l'un gagne et l'autre perde ? Comment s'y prépare-t-il ? Élément de réponse avec Christelle Méral et Gaël Liabeuf.
Mercredi, ils se feront face. En ligne de mire, 5 ans après le match retour. Quelle est la stratégie de chacun pour convaincre ? Dans la course vers l'Élysée. Le débat de 2017, un traumatisme au Rassemblement national.
Ils sont là, ils sont dans les campagnes.
Une prestation ratée pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron avait pris l'ascendant.
Ne dites pas de bêtises, vous en dites beaucoup.
Cette fois-ci, changement de méthode. Elle était arrivée épuisée. Là, elle va se mettre au vert 48 heures. On la préserve. Elle doit se reposer. Ce n'est pas une machine. C'est un pur sang de course, affirme son entourage. Au programme, des débats fictifs pour s'entraîner avec un énarque qui aurait un profil proche d'Emmanuel Macron pour éviter une nouvelle fois le procès en incompétence. Quand on rate un virage, on ne fait pas deux fois la même erreur, confie-t-elle en privé. Lui sait que le duel s'annonce plus difficile. Les gens vont la comparer à 2017. Tout le monde va dire qu'elle a progressé, donc ce sera forcément positif pour elle, s'inquiète un ministre. Le président candidat révise aussi notes et argumentaires tout en poursuivant ses déplacements.
Elle a pris beaucoup de temps pour s'y préparer. Et moi, j'ai toujours mené ces débats, ces discussions avec beaucoup de sérieux.
Alors, quelle attitude pendant le débat ? Pour elle, pas d'agressivité, mais une franche confrontation.
Si c'est un moment qui précisément permet de débattre projet contre projet, d'évoquer son bilan aussi, alors oui, ce sera un moment fondamental de la campagne.
Côté Emmanuel Macron, justement, on anticipe les attaques. On va se faire pilonner sur le bilan. On doit la démasquer sur son projet, détricoter son programme, préconise un conseiller. Et un proche du candidat le met en garde. Il faut éviter toute forme d'arrogance. Des candidats très attendus pour ce duel où tout peut se jouer.
Alors, Alix Bouyaguet, on imagine que de part et d'autre, on le prépare avec attention, ce débat, hein, Bertrand.
Oui, 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 d'autant que, bon, Emmanuel Macron, il a un peu à perdre, mais pas tant que ça. C'est Marine Le Pen qui joue vraiment gros, parce qu'effectivement, il y a 5 ans, elle est passée totalement à côté de son débat. Et c'est vrai qu'il avait mis le doigt sur... il avait décrédibilisé, finalement, son programme, sa capacité à pouvoir être chef de l'État, notamment sur les dossiers économiques. Donc là... Forcément, comme il le dit lui-même, il y a 5 ans de plus, elle a bossé, beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Elle a évacué tout ce qui était un peu de l'ordre de l'aspérité dans ses programmes. Elle a lissé, par exemple, l'Europe. Elle ne veut plus sortir ni de l'euro, ni de l'Europe. Même si finalement, de fait, comme elle veut la préminence des règles nationales voilà, sur les directives européennes, de fait, il y aura quand même un gros problème. Elle veut desserrer le lien avec les Allemands. Donc, on voit bien les problèmes. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, il aura plus de difficultés à pointer ces difficultés, les incohérences de son programme, d'autant qu'il ne pourra pas non plus lui faire le procès des renoncements, parce que lui-même en a fait beaucoup, à commencer par la réforme des retraites qui était censée être son projet phare, et encore 15 jours avant le premier tour. Donc ça va être assez intéressant. Le dernier point, à mon avis, de clivage, ce sera sur le chiffrage des projets. Marine Le Pen, et là aussi, chacun pourra se renvoyer la pierre. Marine Le Pen, elle lui dira, attendez, me parlez pas d'argent, vous avez fait un quoi qu'il en coûte opportuniste pendant tout votre quinquennat, alors que lui pourra lui dire, mais attendez, votre baisse de la TVA sur vos 100 produits, ça ne mène à rien, les distributeurs. Mais je pense que sur pas mal d'argumentaires, Emmanuel Macron, il aura fort à faire.
Aurore Gorieuse, est-ce que c'est pas Emmanuel Macron qui a tout à perdre, parce qu'il part favori pour cet exercice? Par favori, parce qu'on se souvient de 2017.
Parce qu'on se souvient de 2017. Mais, encore une fois, on l'a dit, hein, il a un bilan à défendre, et c'est plus compliqué comme posture, il va être attaqué là-dessus. On risque d'avoir un débat, sans doute, après tout ce qui a été dit, je pense qu'on peut en conclure, qu'on risque d'avoir un débat qui sera assez défensif. D'un côté, Emmanuel Macron qui va devoir se justifier sur beaucoup de choses, parce qu'il a un bilan, et justifier ce qu'il veut faire ensuite dans le mandat qu'il brigue, le second mandat qu'il brigue. Et en face, Marine Le Pen qui va vouloir être plus costaud sur le fond. On va voir si elle y arrive, parce qu'on a vu une conférence de presse aussi la semaine dernière sur sa politique étrangère qui était très brouillon.
Avec Bourguiba, l'Algérien.
Voilà, exactement. Alors que c'était chef d'État tunisien et non pas algérien. On va voir si elle a vraiment bossé ses sujets, si elle tient la route dans la confrontation aussi, parce que finalement, encore une fois, sur les programmes, il y a eu très peu de confrontations avant le premier tour, très peu de débats sur le fond des sujets. Donc on va voir si là-dessus, elle est plus costaud que, évidemment, elle est attendue là-dessus. Donc elle a quand même à perdre sur la crédibilité qu'on... Elle avait un trou de crédibilité après le débat de 2017. Elle a un peu regagné, semble-t-il, aux yeux des Français. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du fond. Là, on va parler du fond, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, Emmanuel Macron, lui, il va devoir se justifier beaucoup plus qu'en 2017 où il n'avait pas de bilan. Donc on risque d'avoir un débat assez défensif des deux côtés, qui sera sans doute très intéressant à regarder.
Claude Veil, peut y avoir une erreur fatale ?
Il peut toujours y avoir. Les deux sont quand même des pros hein, de la prise de parole publique. La difficulté pour le président sortant, vous l'évoquez, c'est que quand vous êtes président de la République, vous êtes en charge du réel. Et le réel, par définition, est décevant. Quand vous êtes leader de l'opposition, vous promettez un autre monde. Et ce autre monde, il a le charme irrésistible des femmes avec.
Qu'on de, a, l'herbe, qu'on a, de l'herbe d'à côté.
Voilà, ailleurs, l'herbe est plus verte, on va voilà. Dire comme ça. Au bout du compte, qu'est-ce qui va surnager ? Je ne crois pas que les Français vont arbitrer entre les programmes. Les gens qui sont très attachés au programme, au contenu, ceux-là, ils ont fait leur choix depuis longtemps. Ce que les indécis vont regarder, c'est est-ce qu'il habite le costume ou pas ? Est-ce qu'il a les épaules ou est-ce qu'elle a les épaules ? Et c'est ça qui transparaît de façon presque subliminale dans ce genre de discussion.
Et ce sera mercredi hein, sur France 2 avec Léa Salamé et Gilles Boulot. Donc. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.